parcours pluridisciplinaire, les élèves de première SAPAT, service aux personnes et au territoire, ont travaillé sur le thème de la douleur. À cette occasion, ils ont rencontré plusieurs personnes concernées par le sujet. Ainsi, vous pourrez entendre les témoignages des élèves de l'école primaire de Pavie, Alain Siste, infirmier de secteur psychiatrique à l'hôpital d'Auch, Aniko Seakoti, médecin psychiatre à l'hôpital d'Auch, Nathalie Chaoui, médecin généraliste, gériatre, membre du réseau Arpège, Sébastien Le Guen, directeur de la compagnie de cirque L'Onely Circus, Séverine Husson, Simon Durand, éducateur sportif et sportif de haut niveau. Nous allons commencer à l'école de Pavie avec les enfants. Bonne écoute.
Bonjour, vous allez vous présenter s'il vous plaît, dire votre nom et l'âge.
Bonjour, je m'appelle Nora et j'ai 6 ans et demi.
Bonjour, je m'appelle Nina et j'ai 6 ans et demi.
Bonjour, je m'appelle Ainoa et j'ai 5 ans et demi.
Bonjour, je m'appelle Ethan et j'ai 6 ans et demi.
Si tu dormes, qu'est-ce que ça vous fait ?
Ça fait un peu mal, ça pique,
ça brûle.
Et ben, si on fait du vélo et qu'on tient pas sur les pédales, là c'est sûr qu'on tombe et on se fait mal.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu une brûlure ?
Oui.
Moi, je me suis fait une brûlure. Je voulais toucher le plat et je me suis fait une brûlure.
Parce que moi, je courais. Après, quelqu'un m'a poussé pour aller très vite et je suis tombée. Et en avançant, ça m'a fait mal aux jambes.
Quand je me brûlais, j'ai touché une ampoule allumée.
Est-ce que quelqu'un est déjà tombé en vélo ?
J'avais essayé d'avoir une main sur le guidon et une main pas sur le guidon et je suis tombée.
Est-ce que ça vous a fait mal ?
Très mal.
Moi, ça m'a fait mal.
Alors, je m'appelle Alain Siste, je suis infirmier de secteur psychiatrique. J'entame sur l'hôpital d'Auch ma 27e année de service.
Moi, je m'appelle Aniko Seakoti, je suis médecin psychiatre, donc j'exerce depuis 2009 maintenant, l'année où j'ai obtenu ma thèse.
Qu'est-ce que c'est la douleur pour vous ?
Je crois que c'est quand même un concept assez subjectif, car les personnes, on a des échelles d'évaluation de la douleur. Quelqu'un qui aura une rage de dents, par exemple, vous dira qu'il aura une douleur intense et appréciera sa douleur, mettons, à 5 sur 10, alors que quelqu'un qui aura une douleur a priori moindre évaluera sa douleur à 7. Alors c'est assez subjectif. Voilà. Mais bon, il faut quand même prendre en compte le fait que la personne qui vous dit « j'ai mal », il faut prendre en compte cela, quoi. Voilà.
Oui, c'est tout à fait subjectif. Hein. Le vécu douloureux est quand même quelque chose de très subjectif. Dans le domaine de la douleur psychique, c'est un domaine qui est très, très vaste. C'est-à-dire que ça peut aller d'un simple... sensation de mal-être un peu bizarre, un peu floue, ça peut aller jusqu'à une détresse psychologique majeure, à un désarroi, un sentiment d'impuissance, d'impasse aussi. Et puis, il faut pas oublier que douleur psychique s'accompagne très souvent de douleur physique aussi. D'ailleurs, c'est quand même assez intéressant aussi que vous savez qu'au niveau des sensations, on peut repérer... avec des techniques d'imagerie notamment cérébrale, certaines zones du cerveau qui sont mises à contribution dans les ressentis, donc y compris dans le ressenti de la douleur. Et on a remarqué qu'en effet, c'est très schématiquement, certaines zones, c'est les mêmes qui sont activées à la fois dans la douleur physique que psychique. Donc la douleur psychique, c'est vraiment quelque chose de réel, ressenti tel quel, qui peut avoir même un substratum, on appelle ça organique au niveau cérébral.
Comment le personnel voit la douleur psychologique d'un patient ?
Alors, pour évaluer en effet la douleur psychique, puisqu'on est dans ce domaine-là, on est d'accord, évaluer la douleur psychique de nos patients, en effet, il y a cette composante de repérer les symptômes. Les symptômes qu'on voit, les symptômes, c'est les signes en fait. Hein, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire un symptôme. C'est tous les signes que montrent nos patients à nous et qui peuvent être en lien avec certains troubles mentaux. Pour moi, néanmoins, la douleur est un symptôme un peu à part parce que c'est quand même, ça peut être dissocié de tout trouble mental. C'est-à-dire que, en effet, la plupart des patients qui souffrent d'un trouble mental, d'une pathologie mentale, d'une maladie mentale, en souffrent, présentent une douleur psychique, mais pas tous. Certains qui n'ont pas la perception de leur maladie, qui sont dans le déni, qui ne réalisent pas qu'ils sont malades, qui n'acceptent pas ça, ben ils n'en souffrent pas tout simplement parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas malades. À l'inverse, il existe aussi des personnes ou des patients qui, quand ils sont hospitalisés, ne présentent pas de maladie mentale, mais ont certains fonctionnements quotidiens qui les dérangent beaucoup et qui les fait souffrir. Je me sens trop timide ou je ne suis pas à l'aise avec les gens, j'ai des difficultés à parler en public, sans forcément que ça rentre dans le cadre d'une maladie bien structurée, correspondant aux critères. Donc cette douleur, cette souffrance psychique peut être liée aussi à des vécus tout à fait subjectifs. Donc nous ici, on repère vraiment le vécu des gens. On n'est pas en train de juger, ah oui, est-ce qu'il a raison ou il n'a pas raison de souffrir, ah mais finalement, monsieur, vous avez encore la chance parce que l'autre à côté, il est bien plus malade que vous. C'est pas ça du tout. On essaie de comprendre qu'est-ce qui provoque cette souffrance, qu'est-ce qui provoque ce désarroi, et c'est vraiment le vécu subjectif de nos patients qui nous intéresse pour pouvoir les accompagner au mieux.
Comment vous traitez la douleur ?
La douleur se traite quand elle est physique. Il y a des thérapeutiques qui sont là pour atténuer la douleur physique, hein, bien sûr, mais également la douleur psychique. Il y a plusieurs arsenaux, je dirais, pour la douleur psychique. Bien sûr, il y a le traitement médicamenteux qui est mis en place par les médecins. Après, on a une panoplie de. Il y a les consultations avec les psychologues. Il y a des prises en charge spécifiques. De manière à ce que le patient soit pris un petit peu dans sa globalité et permettre à ce que cette douleur psychique, lorsqu'elle est là, s'atténue peu à peu avec différentes prises en charge.
Oui, je rejoins un petit peu les propos d'Alain, c'est-à-dire que la gestion de la douleur psychique a un versant, alors je dis en premier non médicamenteux, parce que c'est quand même ça notre quotidien, et un versant médicamenteux. Je souligne ça parce qu'on a l'impression que quand on va voir un psychiatre, un médecin psychiatre, forcément, on va ressortir avec des médicaments. C'est pas du tout notre premier outil. Notre premier outil, on essaie toujours de faire sans, dans la mesure du possible, et avoir recours aux médicaments quand vraiment ça semble nécessaire. Concernant la douleur psychique, il existe aussi des évaluations un peu objectives qui nous font dire, notamment des questionnaires de dépression, des échelles. On s'en saisit plus ou moins en fonction de son expérience ou pas, mais en tout cas, on essaie toujours d'évaluer l'intensité de la douleur psychique. Si c'est vraiment très intense, on sait que les médicaments peuvent être d'un grand secours. À côté de ça, quand même, le pivot de la prise en charge, c'est les mesures non médicamenteuses. Tout ce qui concerne un accompagnement, en effet, psychologique. Parce que l'idée, quand même, c'est non pas de donner des recettes comme ça toutes faites aux patients, mais pouvoir les accompagner jusqu'à une certaine perception de ce phénomène douloureux pour que lui, par lui-même, il puisse acquérir de nouvelles stratégies, lutter contre cette douleur, pouvoir apaiser sa douleur, lui redonner confiance en lui-même, en lui ou en soi, comme on dit. Voilà. Lui redonner confiance en lui.
Qu'est-ce qu'une chambre d'isolement ?
Alors, une chambre d'isolement, C'est une chambre où il y a un lit, bien entendu, un lit qui est... c'est une chambre sécurisée, c'est-à-dire que le lit est fixé au sol. Il y a évidemment l'environnement, donc il y a un WC propre à la chambre. Et cette chambre avec des portes sécurisées, de manière à, quand on isole un patient, c'est pour le protéger de lui-même ou pour protéger les autres, parce que quelquefois, il y a des patients qui sont en crise et on ne peut faire autrement que les mettre en chambre d'isolement lorsqu'il y a des crises comme ça classiques, ou même parfois ces patients-là ont besoin d'être isolés pour eux-mêmes parce qu'ils ont l'isolement les contient, on dirait, psychologiquement. Voilà. Donc l'isolement n'est jamais vécu très bien par les soignants non plus, mais lorsque c'est nécessaire, on est obligé, et donc parfois on est obligé de mettre les personnes en isolement. Mais ne croyez pas, c'est tout à fait ponctuel, et ça ne dure jamais très très longtemps, et c'est toujours bien entendu sur indication médicale.
Moi, c'est Simon Durin, j'ai 34 ans. Je suis éducateur sportif depuis déjà 18 ans et je pratique du sport de haut niveau ou à gros niveau, ce qu'on appelle, depuis plus de 20 ans.
Pourquoi avez-vous choisi ces sports ?
Alors, tout simplement, à la sortie du primaire, hein, mes parents faisaient du sport, j'ai suivi le quotidien de mon père qui m'a lancé là-dedans et je me suis jamais arrêté du coup. Je n'ai jamais fait de pause sportive depuis mes débuts. C'était au collège, à partir du collège.
Donc depuis quand pratiquez-vous le triathlon ?
Alors moi le triathlon, vu que j'ai 34 ans, le triathlon est un sport tout jeune. J'ai débuté avec le triathlon en fait, c'était milieu collège, c'était années 95 par là. 95, 98.
Faites-vous des compétitions ?
Alors, faut savoir que le triathlon, comme vous le savez peut-être, c'est trois sports et c'est surtout d'une exigence en termes de volume horaire. Et comme je vous ai dit, depuis que je suis papa, depuis 8 ans, j'ai dû arrêter le triathlon. Et je me consacre essentiellement à la course à pied maintenant. Et je fais énormément de compétitions, oui.
Combien d'heures d'entraînement par jour faites-vous ?
Alors aujourd'hui, en termes d'entraînement sportif, donc essentiellement dédié à la pratique sportive, j'oscille entre 8h et 10h de sport par semaine. En comparaison au triathlon, où c'est un minimum de 15 à 20 heures pour pouvoir être un minimum performant.
Et quel sport vous fait le plus souffrir ?
Alors, aujourd'hui, la course à pied, essentiellement, sachant que le triathlon, c'est des sports, on va dire, d'endurance. Donc, on va souffrir énormément sur une fatigue musculaire. Ça ne fait pas mal au sens prendre des coups. Aujourd'hui, je fais que de la course à pied, donc c'est essentiellement sur le bas du corps, on va dire, sur les jambes. Mais je m'oriente depuis 2 ans et demi sur la course à obstacles. Et là, on revient à une véritable prise de coups au sens propre du terme. Donc j'ai mal physiquement, musculairement, et j'ai mal sur les articulations partout parce que je me fais mal.
Prenez-vous des médicaments, vitamines contre votre douleur ?
Alors oui, et beaucoup. Je suis quelqu'un qui suis très proche de la nature. Je suis de Pavie, moi. C'est moi qui organise toutes les courses de nature ici. Mais à partir d'un certain niveau, même les plantes ne me suffisent plus pour soigner mes coups. Donc nous, on est vite restreint par, par des textes légaux qui interdit la quasi-totalité des médicaments. Ouais, il faut en être sûr. Du coup, c'est soit sous ordonnance, mais ça ne marche pas comme ça. Donc là, j'en ai beaucoup de produits dopants, mais parce que je suis vraiment malade pour de vrai. Mais faut savoir que moi, à mon niveau, je ne suis pas suivi par les médecins. Donc je pourrais prendre ce que je veux et tricher, clairement. Mais il y a des tirages au sort. Donc sur les courses internationales, on est tiré au sort, au hasard. Et donc même le dernier pourrait être contrôlé. Et puis, vous avez vu comment je parlais, avec un simple sirop, on peut être interdit ou disqualifié. Et puis, au-delà de la performance, c'est très, très honteux. Donc oui, beaucoup de médicaments, certainement plus que vous, mais certainement pas pour améliorer mes performances. C'est pour un confort, on va dire, et par le fait que moi, je m'entraîne beaucoup et sur des longues durées, je vais surtout perdre tout ce qui est minéraux, des choses comme ça. Donc ça va pas être, moi j'appelle pas ça des médicaments, hein. Les médicaments, c'est ce qu'on prend sous ordonnance dans les pharmacies, donc ça non. Mais des compléments alimentaires, oui, beaucoup. Beaucoup.
Résistez-vous à la douleur pendant l'effort ?
Alors c'est là où on touche à la performance, j'allais dire. Donc il va y avoir deux qualités, hein. En course à pied, pas trop. On va reparler de la natation. La natation, c'est soit vous êtes très doué sur une technique de course. Donc en gros, vous nagez mieux que les autres, ce qui va vous permettre de gagner. Et après, ça va être de l'entraînement. Et donc, la douleur à l'effort, elle va être là. Ça va être en gros celui qui va maintenir le plus possible la douleur, qui va être performant. Aujourd'hui, je fais du marathon, ce qu'on appelle. Hein, d'accord ? Donc là, moi, mon but de m'entraîner, ça va être de faire reculer le seuil de douleur le plus tard possible. Parce qu'à un moment donné, il va quand même arriver et il va falloir que je finisse ma course. Et là, c'est très très dur. Donc le but de l'entraînement, il est là. Faire reculer ce seuil à la douleur.
Quels sont vos objectifs et vos motivations pour continuer malgré la douleur ?
Là, ça va être tout ce qui touche au personnel, en fait. Donc je rentre de grosses compétitions et donc ce seuil à la douleur, il m'est arrivé très très tôt. Donc là, soit on regarde la montre, soit on regarde les kilomètres au sol et on se dit que on est loin d'être arrivé. Donc moi, j'ai fait un effort de 3 heures, un petit peu moins. C'est à mi-course, j'étais déjà très très mal, on va dire. Les muscles, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on ne les contrôle plus à un moment donné. Donc là, tu penses à tout ce que tu veux pour te faire arriver au bout. Donc moi, c'est quand même énormément de sacrifices sur mon quotidien. Donc me dire, j'en suis arrivé là, c'est pas pour abandonner. Ça, c'est quand même très compliqué dans la tête à faire. On y pense sans arrêt. Hein. Dès que ça fait mal, on pense à ça, mais on gamberge. Et puis après, ça va être tout ce qui est quotidien. Hein. Ma fille, j'ai pas envie de faire honte à ma fille. J'avais ma femme au bord du parcours, donc non, elle est venue pour me voir, c'est hors de question. Et puis, les sportifs ont des très gros égos, ce qu'on appelle. Hein. Donc non, on n'a pas envie de s'arrêter et de rentrer au village en disant « il a abandonné, On préfère rentrer comme ça m'arrive et puis de dire oh, bravo. Donc c'est vraiment tout ce qui touche au caractère. Mais voilà, à peu près.
Je suis Nathalie Chaoui, moi je suis médecin généraliste, gériatre. Et puis un jour j'ai rencontré dans les années 2008 le réseau Arpège, qui est un réseau douleurs et soins palliatifs, qui m'a demandé de commencer à venir travailler avec eux. Alors au début ça a été 30%, puis 50%, puis maintenant je suis à temps plein. Et c'est un réseau qui était à l'origine un réseau douleurs et soins palliatifs, qui en 2012 est devenu un réseau territorial de santé. Donc on s'est dit que finalement la prise en charge globale qu'on proposait dans la douleur et les soins palliatifs, on allait la proposer dans le cadre des maladies chroniques au sens large et des situations complexes. Voilà.
Est-ce que vos patients ont une douleur primaire? Si oui, quelle douleur?
Alors, les patients qu'on prend en charge, généralement, ils ont plein de douleurs. Des douleurs primaires, des douleurs surtout secondaires. Ce sont des patients qui ont des pathologies lourdes, beaucoup cancéreuses. Voilà. Et ils ont des douleurs qui sont mixtes. Alors, je ne sais pas si vous avez eu tout ça, mais ils ont des douleurs qui sont liées à des atteintes du système nerveux central, donc des douleurs qu'on peut qualifier de douleurs neuropathiques. Et puis, ils ont des douleurs classiques, comme on peut avoir des douleurs quand on se blesse ou quand on se coupe, des douleurs par excès de nociception. Voilà, pour les termes classiques.
Comment voyez-vous la douleur physique chez vos patients?
Comment je la vois? Voyons. Alors dans cette votre question, il y a plusieurs choses. Comment je la vois je l'évalue effectivement par ce que va me dire le patient. Ce qui va me dire de sa douleur. Ça veut dire que quand on va prendre en charge des patients douloureux, il y a un temps d'échange qui est important. Et je vais utiliser des échelles avec lui, des échelles d'évaluation de la douleur. Alors les plus connues, c'est cette fameuse échelle visuelle analogique où on dit au patient entre 0 et 10, donnez-moi un petit peu le chiffre de votre douleur, en lui précisant que 0 c'est quand il a pas mal et 10 quand il a une douleur maximale. Résumer la douleur à un chiffre sur une échelle, c'est un petit peu compliqué. C'est bien au-delà de ça. Donc c'est aussi les signes qu'il va avoir sur son visage, les mimiques, comment il va exprimer sa douleur, quelle émotion il va lier à sa douleur, qu'est-ce qu'il va me dire de sa douleur. Donc finalement, le chiffre, c'est une façon d'aborder le problème pour essayer de la quantifier, de la rationaliser. Mais la douleur, c'est pas rationnel. La douleur, c'est beaucoup plus vaste. Et donc le chiffre, c'est un point de démarrage. Et après, on va vraiment interroger, discuter, échanger. Voilà.
Comment identifiez-vous la douleur mentale de chaque patient?
C'est complexe d'identifier une douleur mentale. Et je ne sais pas si on peut faire la part des scindés comme ça, dire ça c'est du physique, ça c'est du psychique, ça c'est de l'émotionnel. Ça. En fait, c'est un espèce de gros sac, la douleur, où il y a tout. Et quand on augmente l'émotionnel, eh ben on augmente la douleur. Et ce n'est pas pour autant que la réponse allait à travers de la morphine ou des traitements comme ça. J'identifie pas ça. Je vois que quand je prends en charge des patients, je m'aperçois qu'il y a une charge émotionnelle qui est importante. Je m'aperçois qu'il y a une composante psychologique sur laquelle on pourrait agir. Et j'essaye. Et en fait, on tâtonne dans la prise en charge de la douleur. On va essayer de faire une prise en charge par une psychologue. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis on va voir si on arrive à diminuer un petit peu la douleur. Mais je sépare pas le psychique du physique. Voilà, c'est un tout.
Comment traitez-vous la douleur? Faites-vous appel à des traitements médicaux?
Ah oui, je fais appel à des traitements médicaux, mais comme je viens de vous le dire, le limiter à des traitements médicaux, c'est très réducteur par rapport à la douleur. Donc bien sûr, quand on a des types de douleurs et des intensités de douleurs, on va avoir recours à des médicaments. Alors, on va, selon nos pratiques, utiliser des médicaments légers, plus forts ou intenses comme les morphiniques. D'autres médicaments pour d'autres types de douleurs, comme les douleurs neuropathiques qu'on évoquait tout à l'heure. Mais ça, c'est réducteur de dire qu'on se limite à ça. C'est-à-dire qu'après, le patient, si je vois que émotionnellement, c'est compliqué, ben certainement, je vais lui proposer un soutien psychologique. Certainement aussi que le rassurer au niveau rien que du social, lui dire qu'il va avoir quelqu'un qui va l'aider à la maison, ça va le réassurer. Et du coup, ça va diminuer sa douleur. Et puis, il y a toutes ces approches complémentaires qui sont des approches non médicamenteuses et qui sont très bénéfiques pour les patients. Et je pense en particulier à la sophrologie, à l'hypnose médicale, à des métiers comme les socio-esthéticiennes, à de la balnéothérapie, à du toucher-massage, à la réflexologie, à de l'acupuncture, à tout ce que vous voulez qui soit non médicamenteux et qui a pour but de diminuer la douleur du patient. Donc à partir du moment où ça la diminue, voilà, on marche sur deux jambes. Il y a les approches médicamenteuses qui sont indispensables et il y a les approches non médicamenteuses qui sont non moins indispensables.
Quels sont les professionnels avec lesquels vous travaillez pour aider vos patients?
Alors, donc dans notre besace, nous avons des médecins, des infirmières. Donc ça, c'est le côté soignant. On travaille aussi avec des SIAD, des services d'auxiliaires de vie. Donc des CIAS, des SAD, des SIAD, enfin voilà, tous ces services d'aide à la personne. On travaille avec les assistantes sociales, on travaille avec des psychologues, on travaille avec des sophrologues, des hypnothérapeutes, on travaille avec des socio-esthéticiennes, on travaille, voilà, avec le conseil général. En fait, on met tout autour du patient, tout ce qui peut être utile pour la prise en charge de la douleur et des autres symptômes inconfortables du reste. Voilà.
Comment aidez-vous vos patients?
J'espère que je les aide. Comment je les aide? Donc, quand on a ce qu'on appelle un signalement sur le réseau, c'est qu'il y a quelqu'un qui va nous téléphoner pour nous dire, ben, on a une situation de monsieur ou madame untel qui a tel et tel problème, voilà, et il va nous donner son adresse, son numéro de téléphone, le nom de son médecin traitant, des intervenants qu'il connaît pour intervenir au domicile. Pour qu'on intervienne, il faut qu'il y ait un projet de retour à domicile ou de maintien à domicile. On n'intervient pas à l'hôpital. À l'hôpital, il y a des équipes mobiles, douleurs et soins palliatifs. Enfin, il y a d'autres intervenants. À partir de ce moment où on a le signalement, on va téléphoner au patient et on va lui dire « Est-ce que vous acceptez qu'on intervienne ?» Si le patient nous dit non, on n'intervient pas. Et on va téléphoner à son médecin traitant. Et on va lui dire « Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on intervienne ?» Et pareil, si le médecin traitant nous dit « On n'intervient pas », on n'y va pas. Donc une fois qu'on a ces deux accords, on va proposer un temps de concertation à domicile, où on va réunir autour d'une table le patient, sa famille, le médecin traitant, les infirmières libérales, les services d'aide à la personne s'il y en a, et puis le médecin et l'infirmière du réseau, qui sont qualifiés dans la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs ou de la gériatrie. Et donc on fait un temps de concertation. Ce temps de concertation, ça c'est une évaluation globale de la situation. On va justement évaluer la douleur du patient, voir ce qu'il a, faire un peu une checklist avec le médecin, l'infirmière. Est-ce qu'on a tout le matériel qui est en place? Tiens, il faut faire des manutentions, il n'y a pas de lève-malade. Est-ce qu'on peut mettre un lève-malade? Non, c'est trop étroit. Est-ce qu'on peut pousser une armoire? Est-ce qu'on a tous les médicaments qu'il faut? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une douleur à 3h du matin et qu'il n'y a pas le médecin qui est joignable? Qu'est-ce qu'on anticipe comme prescription? Quels sont les besoins? Là, je vois que la famille, elle craque un peu. Est-ce qu'il y a besoin qu'on soutienne la famille avec un soutien psycho? Est-ce que les équipes soignantes qui s'occupent d'eux, que ce soit les infirmières, le médecin, les auxiliaires, le SIAD, est-ce qu'elles ont besoin aussi d'être soutenues? Parce que des fois, c'est lourd. On va faire un petit peu tout ça, voir un petit peu de quoi il a besoin. On va proposer ça. Nous, on n'a pas un rôle de prescription. On a un rôle de conseil. Et on voit avec le médecin traitant. Le truc, c'est que c'est une collaboration avec le médecin traitant. Et c'est pour ça qu'il faut son accord à la base. S'il n'est pas d'accord, on ne pourra rien faire. Et c'est un peu comme ça. Et après, on va assurer ça, c'est le temps d'inclusion, c'est le temps initial. C'est un peu, on voit ce qu'il y a et puis on commence à proposer des choses, des approches médicamenteuses, non médicamenteuses. Et puis après, on va assurer un suivi du patient. C'est-à-dire qu'on va revoir un petit peu si ce qu'on a mis en place, ça fonctionne. On réévalue, puis on réadapte. On va faciliter s'il faut une hospitalisation, parce que là, ça va plus, pour qu'il essaye de pas passer par les urgences et de pas passer 3h ou 4h, dans des situations inconfortables. Voilà. Notre rôle, c'est d'être un conseil auprès du premier recours. Le premier recours, c'est les infirmières libérales, les médecins, les kinés, tous ceux qui travaillent en ville. Un rôle de conseil et un rôle de lien entre la ville et l'hôpital, de facilitateur. Voilà.
There's a little figure on the television, scratching at the ground by a pile of rags. Grainy little figures on the television screens, weighing up the moment. Guilty, guilty. What's he doing with we want it there.
Bonjour, alors je suis Sébastien Lewen, je suis directeur artistique d'une compagnie qui s'appelle Lonely Circus. Et ma spécialité dans le cirque, en tout cas, c'est fil de feriste.
Depuis quand pratiquez-vous cette activité ?
Alors moi, ça fait presque 20 ans de manière professionnelle, puisque je suis sorti de l'école de cirque en 97. Donc ça va faire 20 ans l'année prochaine qu'en tant qu'artiste de cirque, je suis professionnel. Et l'activité autour du corps, ça fait longtemps, parce que j'étais sportif de haut niveau d'abord, moi, avant de faire du cirque, en fait. J'ai eu pratiquement une dizaine d'années de pratique de l'athlétisme, puis je me suis mis à faire du cirque. Donc ça fait presque 30 ans que je fais du physique, autrement dit.
Combien de temps vous vous entraînez par jour ?
Alors en moyenne, alors quand on n'est pas en résidence, parce qu'en ce moment là on est en création, donc ça veut dire qu'en création là on travaille physiquement, on travaille à peu près 6 à 7 heures dans la journée. Après en temps normal, comme entretien, moi je m'entraîne entre 2 et 3 heures par jour, à peu près.
Et par semaine ?
Et ben, c'est 5 jours sur 7 à peu près. 5 jours sur 7, et de toute façon on est dans une telle habitude de ça que... au bout de 15 jours, quand je suis en vacances, au bout de 15 jours, moi, il faut que j'aille courir, il faut que j'aille faire quelque chose parce qu'il y a un problème d'énergie. Alors là, c'est pas la douleur à proprement parler, mais le corps réclame, vous avez dû étudier ça, mais ça réclame sa dose de, je pense, d'effort, je sais pas bien comment ça marche chimiquement, tout ça, mais c'est clairement, moi, il faut que je bouge, quoi. Il faut que je marche, il faut que je cours, il faut que je fasse quelque chose, parce que sinon, je suis infernal.
Est-ce que votre travail génère de la douleur ?
Alors oui, le travail génère de la douleur. Ça fait partie même du travail, je pense. C'est-à-dire, alors, comment dire ? Pour moi, la douleur, c'est deux choses, quoi. C'est à la fois c'est un signe d'avertissement. C'est-à-dire, moi, je le prends comme ça. C'est-à-dire que c'est l'avertissement de qu'on fait mal quelque chose ou pas correctement. Mais c'est aussi je me perds un peu dans ce que je suis en train d'expliquer. C'est à la fois un avertissement et c'est aussi à la fois quelque chose qu'on doit repousser. Parce que très, très rapidement, quand on travaille régulièrement physiquement, la douleur, c'est quelque chose qui apparaît très vite dans l'effort et tout ça. Et donc il faut être capable de l'identifier, d'identifier si on travaille correctement et d'être capable de la repousser un petit peu. Parce qu'évidemment, quand on fait du cirque, quand on fait du sport de haut niveau, d'ailleurs, on va travailler au-delà des capacités moyennes, basiques d'un être humain qui a une vie quotidienne normale. On va un peu plus loin. Donc il ne faut pas y aller... Faut pas y aller trop vite non plus, quoi. Donc pour moi la douleur c'est vraiment un marqueur de ça. Enfin moi je vis ça un peu comme ça. Mais c'est à la fois un avertissement et quelque chose avec lequel il faut composer, quoi.
Quel genre de douleur avez-vous ressenti ?
Oh là là, fou. En 20 ans beaucoup. y a vraiment des douleurs musculaires beaucoup. Là maintenant j'ai plus de 40 ans, enfin j'ai 41 ans, donc maintenant je commence à avoir des douleurs articulaires, donc de vieux, quoi, autrement dit. Je sais que, on bosse pas mal avec des ostéos et des kinés, comme les sportifs, les artistes de cirque, on a un vieillissement quand même qui est accéléré par la pratique très intense. Donc, donc là, moi je commence à avoir des douleurs articulaires, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment les douleurs du quotidien, quoi. Après, j'ai ressenti des douleurs quand je me suis blessé, hein. J'ai eu 3 accidents, dont une fracture assez grave. Par exemple, je fais très bien la différence entre une douleur de travail... Une douleur sur un petit accident, une fracture, enfin je suis peut-être un peu présomptueux, mais je me suis cassé beaucoup de choses. Je sais vraiment quand je me suis cassé quelque chose maintenant, en fait, c'est assez étonnant, quoi. Et on a beau se dire, non, oui, c'est une douleur qui est très particulière, en fait, qui est très aiguë, qui est très précise. Et la dernière fois, psychologiquement, je me suis dit, non, je vais pas faire assez de radio, et j'en étais sûr. Et le médecin, il m'a dit, c'était rigolo, les médecins voulaient pas faire la radio, j'avais un truc au pied, quoi. En fait, oui, j'avais un tout petit os cassé, tout petit, là, sur le métatarse, ça s'appelle. Cinquième métatarse, c'était rigolo. Donc cette douleur, il y a plusieurs types de douleurs, effectivement. Il y a le choc, la fracture, c'est un truc très, très particulier. Ouais.
Est-ce que vous avez déjà renoncé, pensé à déjà renoncer à cette douleur ?
À cause de la douleur ? Renoncer à être artiste de cirque, ouais, très souvent. Je crois que tous les artistes doutent beaucoup. C'est un truc particulier parce qu'on... Comment dire moi, en tout cas, je me demande souvent mais de quel droit j'impose aux autres ce que je fais. C'est-à-dire que... est-ce que c'est vraiment très intéressant ce que je fais, et est-ce que tout ce que je mets en œuvre autour de ça, de mobiliser une salle comme ça, toute une équipe, quelle est ma légitimité ? Voilà. Donc ça, ce doute-là, je l'ai souvent. Renoncer à cause de la douleur... Ouais, ça m'est déjà arrivé par fatigue, effectivement. Il y a des phases où on la supporte moins, parce qu'on vit avec, hein, c'est clair. Moi, le matin, je me lève, je me déplie, ça craque dans tous les sens. Je mets ah non, ça craque vraiment. Je mets 10 minutes, un quart d'heure, et puis après, ça, je trouve, c'est comme une vieille machine, quoi. Et ça se remet en route, quoi. Mais on a aussi du plaisir, parce que quand on travaille et qu'on vit des émotions intenses, il y a quelque chose qui sublime aussi cette douleur, quoi. C'est très euphorisant aussi, la pratique physique, et puis faire des spectacles. Vous voyez, quand les artistes, à la fin, quand ça applaudit, on a une émotion qui est tellement forte que cette douleur-là, elle disparaît complètement, et on est vraiment dans l'euphorie, quoi. Donc c'est, je sais pas, il y a un rapport aussi de... Il y a quelque chose de la forme de la dictologie, quoi. Il y a quelque chose comme ça, quoi. On est addict à ça, en fait. On cherche... Donc la douleur, on vit avec, parce qu'on la dépasse, quoi. Mais c'est vrai qu'un artiste de cirque de 40 ans au réveil, c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo, quoi. Après, ça passe, heureusement. Donc, voilà.
Qu'est-ce que vous faites quand vous avez mal?
Alors, quand on a mal, il y a plusieurs cas de figure. C'est soit c'est un traumatisme, parce qu'on est tombé, il y a eu une chute... Et là, il faut réussir à enlever justement le côté émotionnel, se dire, bon, est-ce que j'ai vraiment mal? À quoi j'ai vraiment mal? Est-ce que c'est genre, je vais avoir un bleu? Donc on se pose en général, il y a ça, et ça c'est la douleur liée à l'accident, puis il y a la douleur liée à la pratique, c'est-à-dire on est en train de faire un exercice normal, et puis là on commence à ressentir une douleur. Donc là, il faut analyser, soit il faut changer légèrement ce qu'on est en train de faire, parce que la posture n'est pas bonne, par exemple, ou le geste n'est pas bon. Et il y a aussi plein de moments où je pense que la douleur, c'est un coup de flemme du corps qui dit, bon, j'en ai marre, quoi. Donc du coup, ça, faut réussir à le repousser, quoi. Parce que souvent, de manière assez étonnante, quand on fait des étirements, quand on fait de la musculation, on dit, ça se dit tout le temps, bon, si ça fait mal, c'est que t'es au bon endroit. C'est ce qui est très ambigu, hein, parce que c'est bizarre. Ça veut dire, ça revient à dire, ah oui, il faut se faire mal pour que ce soit bien. Mais c'est un peu ça. Donc du coup, c'est plutôt... c'est déjouer, c'est une défense, la douleur aussi. Je pense que le mécanisme du corps dit, oh, stop, stop, stop. Donc comme on veut aller un peu plus loin, il faut pousser cette limite, quoi.
De quoi souffrez-vous exactement?
Alors, j'ai des pathologies neuromusculaires. Il y en a une qui s'appelle un syndrome de fatigue chronique et l'autre une fibromyalgie.
Depuis quand êtes-vous malade?
Je ne sais pas exactement. Les premiers symptômes sont apparus, je pense, dans l'enfance, mais passés à peu près inaperçus. Et j'ai arrêté mes activités à peu près en 2004. J'ai eu un diagnostic, ou du moins un premier diagnostic, il y a à peu près 5-6 ans.
Pourquoi avez-vous accepté de raconter votre histoire ?
Parce que c'est d'autres témoignages, d'autres interviews qui m'ont aidée dans mon parcours. Et donc si ça pouvait permettre à d'autres personnes de s'interroger, de répondre à quelques questions, bah, tant mieux.
Est-ce dur pour vous d'en parler ?
Oui et non. Dans ce contexte, je pense que c'est assez simple. C'est même assez positif pour moi. Après, dans d'autres contextes, le contexte quotidien, c'est assez difficile. Parce qu'on est quand même soumis à pas mal de réflexions de la part des personnes à qui on en parle. Et c'est vraiment dur. Donc, j'ai arrêté d'en parler, y compris aux médecins. Et donc voilà, dans une atmosphère que je pense bienveillante, je pense que c'est bien d'en parler.
Quel impact a la douleur sur votre vie ?
C'est un impact à tous les niveaux. Au niveau professionnel, un énorme impact au niveau social, au niveau relationnel, au niveau psychologique.
Quelle activité pouvez-vous faire ?
Alors, difficile question. Je peux faire beaucoup de choses, mais de manière très légère et sur un laps de temps très très court. Par exemple, je suis très sensible à l'effort, donc très rapidement les douleurs vont apparaître, la fatigue va apparaître. Par exemple, là, j'essaye de reprendre le sport, notamment la marche nordique. Je peux marcher un peu, mais c'est très difficile. Les bâtons, ça m'aide. Marcher sans bâton, ça va être sur 50 mètres. Mais voilà, je peux dire quand même, je marche. Donc c'est difficile, ce genre de questions.
Quelle activité vous ne pouvez pas faire ?
Tout ce qui demande de la force et de la rapidité, en gros.
Comment avez-vous accepté la maladie dans votre quotidien ?
C'est un parcours très difficile, très long. C'est, pour vous donner une comparaison, je pense que c'est l'équivalent du tour de monde à la voile en solitaire. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a beaucoup de choses qu'on est obligé d'abandonner. J'ai commencé à accepter quand j'ai arrêté de demander de l'aide. Alors, c'est un peu général aussi de dire ça. Il y a quand même les kinés qui m'aident énormément. Mais vraiment, tout ce qui m'a aidé à faire diminuer mes douleurs, c'est vraiment venu de moi. Donc, c'est un parcours. Je parlais de témoignages tout à l'heure, c'est l'expérience des autres. Et comment je peux, moi, que ça m'appartienne. Mais en tout cas, c'est vraiment un parcours solitaire, avec de temps en temps, parsemé, voilà, un kiné qui va réussir à me donner une indication, plus rarement un médecin. Les psychologues sont importants.
Quel a été l'événement déclencheur de votre maladie ?
Je pense pas qu'il y ait eu un élément vraiment déclencheur. Je pense que ça s'est installé petit à petit. Après, il y a eu un accélérateur, je dirais, où j'ai eu un moment très difficile. J'avais un voisin très bruyant. Et donc, j'ai passé plusieurs nuits sans dormir. Et je pense que ça a été un accélérateur. mais la pathologie était déjà là.
Prenez-vous des médicaments pour atténuer la douleur ?
Non.
Que faites-vous pour diminuer la douleur ?
La kiné, un petit peu d'exercice. L'activité physique est très importante. J'ai les cures thermales aussi tous les ans. Et puis, c'est beaucoup aussi l'aspect psychologique rentre en compte énormément. Il y a un recensement de la douleur, parce qu'il y a plusieurs douleurs. Notamment, il y en a pas mal qu'on peut traiter par le mépris. Elles arrivent, une petite analyse rapide pour dire est-ce que ça veut dire quelque chose ? Oui, non, ça ne veut pas dire, on ne s'en occupe plus, et ça s'apaise assez rapidement. Autrement, il y a le repos. Il y a d'autres douleurs qui sont un peu plus tenaces, et là, c'est le repos. Donc j'arrête tout, je me mets en retrait.
Comment le vivez-vous psychologiquement ?
Ça dépend des jours. C'est parfois très, très compliqué. Globalement, en prenant du recul, j'arrive à être sereine, globalement. Alors, il y a des ratés, il y a des jours où je me réfugie chez moi pendant plusieurs jours jusqu'à ce que ça aille mieux. Mais je pense que c'est vraiment... Je m'efforce toujours de prendre du recul par rapport à mes sensations, à ce qui arrive... Et après, voilà, ça dépend des jours.
Pour venir ici, comment vous avez fait, du coup ?
En voiture.
Et c'était pas trop fatigant ? Enfin, ça allait ?
Non, ça va. Ça va. Pour les petits trajets, ça va. J'ai quand même un périmètre d'une heure, une heure et quart, où je peux conduire. Pas tous les jours, mais globalement, oui.
Est-ce que tu pourrais expliquer exactement quelles sont tes douleurs, comment elles arrivent et leur intensité ?
Alors, globalement, au niveau de l'intensité, elles sont rarement élevées. Depuis le début, j'ai une chance énorme aussi, j'ai pas mal la nuit. Ensuite, comment elles arrivent ? Un peu n'importe quand. Hier, j'ai rangé trois assiettes, donc avec la pince de la main, trois assiettes, c'était trop. Entre le fait de devoir les attraper et de devoir les ranger, depuis hier, je suis un peu sur la ligne sur le fil du rasoir, là où je suis pas très bien.
T'es pas très bien comment ? C'est-à-dire que c'est à la main où tu as mal ou c'est à d'autres parties du corps ? Est-ce qu'il y a une conséquence, par exemple, entre ces assiettes que tu portais et le mal, la douleur qui va arriver ?
Donc ça va être plus précisément à la main hier à ce moment-là, mais après ça va avoir une résonance partout dans le corps. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans un scaphandre, quoi.
Je posais aussi la question, est-ce qu'en arrivant, on a vu que tu avais monté les escaliers qui nous conduisent à l'endroit où on est avec difficulté ? C'est lié, par exemple, à hier, à l'état dans lequel tu es aujourd'hui, ou c'est quelque chose qui est fréquent ?
C'est fréquent. Accentué aujourd'hui par rapport à hier et par rapport aussi au changement de temps. Il n'y a pas toujours qu'un seul élément en général. Mais ça, c'est fréquent. Les escaliers et moi, on n'est pas super copains. Et je pense qu'il y avait plusieurs parties dans ta question.
Ouais, il y avait l'intensité, il y avait la fréquence aussi.
Alors, la fréquence, c'est tous les jours.
Tu as mal tous les jours ?
J'ai mal tous les jours, plus ou moins. Des fois, c'est très, très peu. Mais j'ai mal tous les jours, ne serait-ce que parce que le contact fait mal. Donc, même si je suis totalement détendue, que c'est le pied dans mon bain chaud, le contact du bassin sur le fond de la baignoire est douloureux, de toute manière. Donc, pas assez pour me ruiner mon bain, où j'ai quand même la satisfaction de ça. Mais il y aura tous les jours, à un moment donné. Par exemple, si j'essaye de vous parler comme ça, j'ai mal. Parce que la pression du coude...
Appuyer sur la jambe.
Là, je négocie avec mes jambes pour réduire la douleur. Mais le contact des deux genoux, ça fait mal. Très peu, mais c'est juste pour rappeler que la douleur est là.
Comment vous faites pour vivre tout le temps en ayant mal ?
La distanciation, ce que je disais tout à l'heure, prendre toujours du recul par rapport à ça. Et après, ça fait partie des douleurs que je traite par le mépris. Ça arrive, ça veut rien dire, ça. C'est juste que, voilà, c'est comme ça. Après, les douleurs les plus compliquées, c'est quand il y a un lien direct où j'ai l'impression que ça s'agrippe directement au cerveau, quoi. C'est vraiment une douleur très profonde et qui souvent provoque des nausées aussi, des vertiges. Par exemple, quand dans la position debout, là, c'est des douleurs qui sont assez difficiles. Et là, c'est pas vraiment gérable. C'est la fuite. Il faut que je m'assoie, que je m'allonge. Et donc voilà, c'est éviter ce genre de douleur. Après, quand c'est des petites douleurs comme ça, c'est le rôle aussi de la tête, quoi, d'évacuer. Ça, c'est une douleur qui ne raconte rien, donc on peut ne pas en prendre compte, quoi. Ça fonctionne, ça a l'air un peu ésotérique comme ça, mais ça fonctionne.
Et c'est quoi qui vous donne la force de tenir, en fait ?
C'est une balance entre ça et quand même, il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi les activités à l'extérieur, il y a tout ce qui fait plaisir. Ça va être des choses simples. Pour beaucoup, ça peut paraître ridicule, mais pour moi, ça va être mes chats, par exemple. Moi, j'ai deux chats. Ben, quand ils jouent, quand ils font les malins, ils me font marrer et ça fait du bien. Ça va être le bénévolat que je fais ici. Alors d'accord, quand je rentre, je suis en vrac. Et des fois, pendant deux jours, il faut que je reste allongée. Mais pendant le temps que j'étais ici, ça va. Bon, un peu douloureux, d'accord, mais ça va. C'est toutes les activités qui font plaisir. Moi, j'aime beaucoup aller au cinéma, donc je vais au cinéma. Les spectacles, je peux plus trop y aller parce que là, si c'est trop compliqué, j'ai trop mal. Mais voilà, j'y vais quand même de temps en temps. C'est les petites balades, toutes les petites choses comme ça qui peuvent faire plaisir. Et voilà, parce que la douleur, c'est qu'un élément dans la vie, c'est pas que ça. On n'a pas le choix d'avoir mal ou pas, mais on a le choix de comment on gère cette douleur-là. Et on a le choix aussi des personnes qu'on côtoie. Par exemple, on reçoit énormément de réflexions de la part des gens. Le mieux, c'est de faire des ménages. Ménage, quoi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la douleur, c'est dans la tête. J'avoue que des fois, j'ai eu quelques envies d'étranglement. Je trouve ça indécent, ce genre de réflexion.
On te remercie, alors.
Mais avec plaisir.
Merci à tous, merci à la classe de première Sapate, merci aux personnes qui ont accepté de répondre à nos questions. Merci à Sandra Perrier, infirmière au lycée agricole Beaulieu-Lavacan. À la semaine prochaine.